Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Lundi 8 juin 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'information locale de Syllab et vous avez bien raison, on commence tout de suite avec le flash d'Aïsa.
Plus de 30 morts et une dizaine de disparus aux Philippines suite à un séisme de magnitude 7,8 ce matin. Sur les vidéos des bâtiments, des écoles et des magasins effondrés, après la principale secousse dont l'épicentre était à 27 km de l'île de Mindanao, des répliques de magnitude 6 ont eu lieu. Les régions côtières sont appelées à évacuer la population. Une alerte tsunami dans le Pacifique a été déclenchée. Le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon, des vagues de 1 à 3 mètres pourraient venir. Un projet immobilier de luxe à près de 4 milliards d'euros en Albanie. Le lagon et les plages protégées de Vjosa Narta ont tapé dans l'œil d'Ivanka Trump, fille de Donald Trump, et de son mari Jared Kushner, il y a maintenant 2 ans. Alors que les travaux sont sur le point de commencer depuis une semaine, les manifestations se tiennent dans le pays, la révolution des flamants roses est lancée. Notre pays n'est pas à vendre, peut-on lire sur les pancartes. Mais derrière cette défense d'un site protégé, les revendications dénoncent le pouvoir en place, notamment contre Edi Rama, le Premier ministre. À Tirana, capitale du pays, sous ses fenêtres ce week-end, il et elle manifestent contre un système corrompu. Patrick Bruel, placé en garde à vue, le chanteur de 67 ans, est interrogé dans le cadre des plaintes pour violences sexuelles déposées contre lui en France et en Belgique. S'il est entendu depuis ce matin, c'est en raison de 5 plaintes de 1997 à 2012 nouvellement connues. Il peut être entendu en garde à vue jusqu'à 48 heures. À l'issue, il peut être remis en liberté ou présenté à un magistrat, rappelle France Info. Selon des informations révélées aujourd'hui par Mediapart, de nouvelles plaintes pour viol ont été déposées contre lui les 27 mai et 3 juin dernier. Au total, il va être interrogé sur des faits concernant 13 victimes. Le meurtre de la jeune Liana, 11 ans, dans le Gers, met en lumière les failles d'un système judiciaire. Portée disparue depuis le 27 mai à Florence, son corps a été retrouvé jeudi soir dans un silo agricole désaffecté. Mais alors, qui est le principal suspect dans cette affaire, Léonore ?
Jérôme Barella, 41 ans, est connu du système judiciaire depuis 2017. En effet, il a déjà été visé dans 9 dossiers différents, dont 4 plaintes pour viol sur mineur et 2 signalements, un pour comportement inapproprié envers une lycéenne. Son frère vient quant à lui d'être placé en garde à vue pour des accusations de viol sur mineur de plus de 15 ans, viol par conjoint, séquestration et menace de mort réitérée par conjoint. Les faits remontent pour les plus anciens à 2007 et vont jusqu'en 2017. Aucun lien n'a été fait entre les deux affaires pour l'instant.
Et comment se fait-il qu'il soit parvenu à échapper à la justice jusqu'à le drame ?
Manque de communication entre les services de police, plainte classée sans suite, délai dans le rapprochement des différentes procédures judiciaires. Gérald Darmanin reconnaît un dysfonctionnement de la justice française dans l'affaire Liana. Il sera d'ailleurs auditionné demain matin par la commission des lois du Sénat, comme le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, qui le sera quant à lui par la Haute Assemblée. Le garde des Sceaux a présenté ses excuses publiques après la marche blanche organisée jeudi en hommage à la jeune fille. Si le ministre de la Justice évoque de possibles sanctions à l'encontre de certains magistrats, l'enquête administrative est toujours en cours. Son rapport devrait apporter des réponses d'ici 15 jours. Gérald Darmanin assure qu'il sera rendu public. Alors, comment tente-t-il de reprendre la situation en main ? Hier, le garde des Sceaux a demandé aux procureurs généraux de reprendre, je cite, « l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants d'ici au 14 juillet ». Cela représente environ 70 000 dossiers. Gérald Darmanin a également annoncé qu'il ne prendrait aucun répit avant d'avoir reçu un par un les procureurs généraux pour faire un état des lieux. Convoqués ce matin à la chancellerie, ces derniers ont été appelés par le ministre à une mobilisation générale.
Et son comportement à Gérald Darmanin ne semble pas faire l'unanimité.
Alors pour certains magistrats et magistrates, de telles accusations dans un contexte où la justice française manque déjà de moyens, traduisent surtout d'un manque de soutien. En France, on compte 3 procureurs pour 100 000 habitants, soit 4 fois moins que la moyenne européenne. Pour le président de la République, dans le cadre de l'affaire Liana, il ne s'agit pourtant pas d'un problème de moyens, mais bien d'un dysfonctionnement avéré. Les responsables politiques profitent également de la situation pour remettre en cause l'action du garde des Sceaux. Mathilde Panot pour la France Insoumise et Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti Socialiste, l'ont notamment interpellé afin qu'il assume ses responsabilités et démissionne. Gérald Darmanin a rejeté cette demande, évoquant ce matin une défaillance qui ne tenait pas à ses instructions.
Et comment la population réagit-elle ?
Plusieurs collectifs féministes et associations de protection de l'enfance sont appelés à des rassemblements ce lundi à 19h devant le ministère de la Justice et de nombreux tribunaux. Près de 200 rassemblements sont attendus, dont un à Rennes ce soir. Ces mobilisations visent à dénoncer les défaillances des institutions judiciaires dans le traitement des affaires des violences sexuelles sur mineurs. La Fondation des femmes a notamment réclamé, je cite, une loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants.
Merci Léonore, la situation renforce les doutes de la population envers le système judiciaire. Parmi les presque 6000 personnes présentes à la marche blanche hier, des pancartes, plus jamais ça, et un goût amer face à la lenteur juridique. C'est un rachat historique après près de 30 ans d'activité. SFR a été vendu dans la nuit de samedi à dimanche après un accord entre Bouygues Télécom, Free et Orange. Avec une part de 42% pour Bouygues, 31% pour Free et 27% pour Orange, les groupes de télécom se partageront les plus de 25 millions d'abonnés de SFR ainsi que ses infrastructures. Dans un communiqué, le trio d'acheteurs affirme que l'emploi des 8000 salariés sera garanti jusqu'en 2029. Pour le moment, l'opération de plus de 20 milliards d'euros attend de recevoir la validation des autorités de concurrence qui scellera définitivement son sort. Le ministère de l'économie, de son côté, assure surveiller de près l'opération et l'évolution des prix des abonnements qui pourraient augmenter. Défendre l'eau, la santé et la démocratie, hier, des milliers de manifestants et manifestantes ainsi qu'une cinquantaine de tracteurs se sont réunis à Rennes à l'occasion d'une eau sans pesticides. Un appel d'une quarantaine d'associations de syndicats qui dénoncent notamment le projet de loi d'urgence agricole adopté la semaine dernière. En cause notamment la facilitation des projets de retenue d'eau comme les méga-bassines ou l'autorisation d'exploitation des zones humides. En Bretagne, ce texte s'ajoute au blocage des travaux de la commission locale de l'eau du Sage-Vilaine, une commission souhaitant protéger la ressource des pesticides mais bloquée par certains syndicats agricoles dont la FNSEA. La section rennaise de la Ligue des droits de l'homme dénonce des violences policières au Blône. Dans une lettre adressée samedi au préfet de Rennes, elle indique avoir reçu la vidéo d'une arrestation filmée au Blône dans la nuit du 2 au 3 juin. Sur la vidéo, un homme interpellé par 3 policiers est frappé et mordu par un chien policier alors qu'il est menotté. Une affaire révélatrice de violences policières selon la Ligue. De son côté, le parquet de Rennes indiquait hier ne pas avoir été sollicité ni avoir reçu cette vidéo. Comment pousser adolescentes et adolescents à repenser les façons de vivre les relations filles-garçons ? À l'Université Rennes 2, le chaire recherche action Denis Mukwege a imaginé le concours Penser Demain. Mercredi 3 juin, les élèves de primaire à la terminale ayant participé au projet ont été récompensés lors d'une remise de prix. Par groupe, les jeunes ont réalisé des affiches sur le thème « Et si le masculin ne l'emportait plus ?» Christine Rivalanguego, membre de la chaire Denis Mukwege, et Olivia Amos, coordinatrice du projet, sont revenues sur cette première édition au micro de Solène.
Alors ce projet, c'est un projet citoyen qui émane donc de la chaire. Donc la chaire, dans un volet plus tourné vers l'éducation des jeunes publics, a décidé de traiter cette question plus particulière pour la première édition du masculin et si le masculin ne l'emportait plus. Donc le projet consistait à demander la réalisation de visuels et ces visuels ensuite ont fait l'objet d'un concours.
L'idée était de laisser les jeunes s'emparer de la question de l'égalité filles-garçons et ce dans les établissements soit scolaires, donc primaires, collèges, lycées ou les cercles périscolaires ou encore dans les maisons de quartier, les maisons de jeunes ou de la culture, accompagnés par ces personnes personnes qui, du coup, travaillent avec eux au quotidien et pour que, du coup, ils traitent de cette question et répondent à la problématique et si le masculin ne l'emportait plus. Par une réflexion collective, et le fruit de cette réflexion collective était ce visuel qui a été soumis à jury, accompagné de capsules sonores. Les retours sont très positifs. Ce qu'il y a de très agréable dans ce projet, c'est que en fait, les établissements se sont mis à échanger entre eux sur leur traitement de l'affiche et se sont même parfois réunis, ont créé des rendez-vous pour se présenter leurs affiches respectives, les défendre. Donc c'est vraiment un travail collectif qui a été mené et je pense même qu'il a dépassé ce qu'on s'était imaginé pour une première édition, clairement. Ouais.
Et une nouvelle édition est déjà en préparation.
C'est la fin de ce flash, merci à Isa.
Merci.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi,
la radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et c'est l'heure de l'interview. Ce soir, c'est Anna qui pose les questions.
Oui, on a le plaisir de recevoir dans le studio de CELAB Vincent, vêtu d'un t-shirt vert, en charge de la communication, et Anouk d'un haut violet, coprogrammatrice du festival Pipalapop. Bonjour à tous les deux. Vous êtes ici pour nous parler donc de la 5e édition du festival qui aura lieu vendredi et samedi prochain au Jardin Moderne. Il est organisé donc par l'association rennaise des Pichicailles, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Et au programme, on a une dizaine de concerts de pop-rock indé venus de partout. Et bien justement, petite remarque, là j'ai comptabilisé sur mes petits doigts le nombre de groupes et surtout les nationalités, j'étais quand même assez ébahie. J'en ai compté environ une dizaine, France, Espagne, Canada, Pays-Bas, États-Unis, Royaume-Uni, États-Unis, Autriche, Suisse. C'est énorme. Vous avez été chercher aux quatre coins, assez loin finalement.
Oui, on va chercher loin, c'est cool. Après, les groupes ils sont motivés pour bouger. Après, on ne détruit pas la planète, on essaye de leur faire faire des tournées pour sauver un peu leur petit bilan carbone un peu foirax. Mais non, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment des groupes de partout qui sont motivés à faire des tournées. Et cette année, ça marche encore bien, on arrive à les accueillir.
Excellent. Et pour éclairer les lanternes de celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pourquoi ce nom de festival Pipalapop ? Comment est-il né et qui en est à l'origine ?
À l'origine, c'est Florentine, une des bénévoles de l'asso. On avait fait un CA un peu relou, je ne sais pas, il y a maintenant 5 ans. Et en sortant, on était allé boire un verre, on se disait « Mais oh, si on faisait un festival, comment on l'appellerait ?» Machin, on avait trouvé plein de noms bizarres, puis après elle s'est mise à faire « Pipalapapapalapap » et puis on est parti là-dessus. Parce qu'on n'avait pas d'idée. Et c'est cool.
Donc un nom assez qui est arrivé comme ça,
ouais, c'est ça,
au hasard un petit peu, mais génial. Quel est l'ADN de ce festival ? S'il y avait des gènes ou des ingrédients qui pourraient le définir ? Que diriez-vous ? Et puis, qu'est-ce que votre festival apporte un peu à la scène rennaise ?
Vaste question. voilà, bon, bah après, ouais. le fil conducteur en fait, ouais, de la programmation, c'est vraiment des groupes qu'on aime beaucoup, tous, et qu'on souhaite voir jouer. Donc c'est vraiment un truc assez égoïste, en fait, à la base. Donc voilà, c'est plutôt des groupes qu'on aime bien, qui ne sont pas forcément des groupes qui tournent beaucoup, notamment dans l'Ouest, et voilà. Et donc on est content de pouvoir les accueillir, de pouvoir les voir sur scène aussi. Après, sur la couleur, c'est plutôt des groupes, on va dire, indés, c'est-à-dire de plutôt cette tendance-là, des groupes plutôt dans le do-it-yourself, qui sont pas forcément sur des gros labels, qui se débrouillent pas mal par eux-mêmes, voilà, et qui ont plutôt cette couleur. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, cadre groupe indé, c'est super varié finalement, hein, puisqu'il y aura de la pop, il y aura des choses plus rock, des choses plus électro, des choses plus punk, des choses plus douces, voilà, donc c'est assez varié, mais il y a ce point commun entre tous les groupes qui sont plutôt des groupes, voilà, indé.
Ouais, qui ont besoin d'être aidés finalement et d'être mis en avant, donc aussi,
probablement, voilà, oui, qui tournent, oui, bien sûr, en tout cas qui sont toujours très partants pour tourner, pour venir.
Pour venir, c'est super. Alors, bah justement, c'est des choix personnels, mais est-ce que vous avez un groupe de programmation ? Comment ça se passe un peu ? Est-ce que vous faites des réunions pour faire ces choix ?
On fait des réunions, mais surtout à la programmation, on est donc Baptiste, mon conjoint, Antoine et moi. Après, on demande à pas mal de copains de nous envoyer aussi un peu toutes les idées, des mails à gogo. On reçoit après pas mal de mails de tourneurs et tourneuses aussi. Mmh. Et en fait, on se fait, comme on était un peu en galère, c'est-à-dire on a des idées partout, on s'envoyait des mails, des SMS, on n'en pouvait plus. On a fait un tableau, notre tableau de prog. Et on vote avec des petits chats, on aime, on n'aime pas. On fait un peu une tambouille entre nous, et puis on voit qu'on est tous les trois raccord, on se dit, allez hop, on y va. Et puis très souvent, on connaît déjà un peu la vie des copains à côté et on a déjà demandé aux amis, aux copines ce qu'elles en pensent. Et puis on fait un petit mix de tout ça selon les dispos après de chacun et chacune pour faire les dates.
Ouais, bien sûr. On va commencer peut-être à écouter des petits extraits. Et y a certains groupes qui vont même revenir dans le festival comme Ebi. Donc on va écouter, ça sera le deuxième extrait. Donc justement, vendredi, c'est une programmation qui est assez éclectique avec de l'électro-indus, de l'indie pop lo-fi, du jungle noisy pop, du post-punk, du new wave, sound-punk, électro... BM, BM, comment il faut dire ?
Ça fait peur, moi je laisse Vincent, j'ai envie de mourir. Ouais. On va mettre des noms sur la musique.
Oui, est-ce que c'est bien de mettre des genres d'ailleurs et d'apposer
Pas trop le choix des fois.
Ouais, c'est pas facile à faire en tout cas, c'est moi qui m'en suis occupé cette année. C'est pas toujours hyper simple.
Puis les frontières sont ténues, j'imagine, ouais, sûr, ça déborde un peu.
Ça permet quand même, étant donné qu'il y a quand même finalement assez peu de groupes que les Rennaises et Rennais ont déjà vus, et que voilà, ça permet de cadrer un tout petit peu les styles, mais effectivement, c'est bon, c'est très arbitraire.
Ouais, je comprends. Donc, vendredi, il y aura, si je ne me trompe pas, vous me reprenez, si c'est le cas, 6 groupes qui vont se partager la scène. Damaria, Dana Gavinsky, Ebi, Good Flying Birds, Karaoke, et puis la DJ set avec Vitiland. C'est bien ça ?
C'est impec, c'est ça.
C'est ça. Alors, on va peut-être faire des jalouses et des jaloux. Je n'ai pu choisir que 5 extraits dans tout ce programme. Et on va commencer un premier extrait avec le duo catalano-italien Damaria. Donc, ce groupe, il est basé à Barcelone. Ils ont joué environ 300 concerts dans différents festivals et dans des clubs légendaires. Leur dernier album s'intitule Toda la verdad sobre Damaria ou Damaria. Et donc, je vous propose d'écouter un petit extrait de Tu no me cambiarás et on en parle après. Alors, lequel de vous deux voudrait peut-être nous parler un peu de ce premier groupe ?
Attention.
Les choix
on se bat pour parler.
Non, donc c'est Damaria, effectivement. Ouais. Pour le coup, c'est un des groupes qu'un certain nombre de Rennais et Rennais ont déjà vu, parce que c'est pas la première fois qu'ils jouent à Rennes.
Ah, aussi.
Je crois que c'est la troisième fois. C'est un groupe qui, effectivement, commence à faire parler pas mal de lui. Un groupe qui est... Moi, que j'ai jamais vu, mais qui est visiblement, apparemment très très spectaculaire sur scène, beaucoup d'énergie. Mm. Voilà, et donc c'est plutôt la frange électro, on va dire, de la programmation de cette année. Voilà, un groupe assez. En tout cas, voilà, la promesse d'une prestation scénique assez, assez forte et spectaculaire.
Ouais, c'est ce que j'ai lu. Et a priori, c'est vraiment avec ce dernier album qu'ils ont mis en scène, ou en tout cas que l'énergie du live était vraiment présente.
Absolument.
C'est ce que j'ai cru, en tout cas.
Effectivement, c'est tout à fait ça.
Je vous propose de partir sur un autre, sur un style un petit peu différent, de l'indie pop avec Ebi. Donc Ebi, la chanteuse, c'est Dorje Idema.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Elle est déjà passée par le Pipe à la Pop il y a 2 ans, en 2024. Et elle était membre de Sacrificial Chanting Mood.
C'est ça.
Je ne sais pas si le groupe existe.
Le groupe a parfait d'album depuis. Après, il avait vachement marqué tout le monde. On l'avait mis au début en se disant que c'était peut-être un peu plus posé dans la soirée. Et en fait, tout le monde s'est dit « Ah ouais, ça balance !» Et c'était génial. Et puis après, on a écouté son projet solo. On a trouvé ça super. Elle devait venir, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et au final, elle avait dû annuler parce qu'elle avait eu des soucis. Et donc, on est très contente de pouvoir la faire revenir au festival. Et dans son groupe, elle est aussi avec Michel, qui est un membre de Losberg, qu'on a fait jouer plusieurs fois. et qu'on adore aussi. Donc en gros, on est trop contents de les revoir et de les accueillir.
Donc en fait, ils seront combien sur scène ?
Ils seront 3 sur scène.
Ils seront 3.
On a les 2 sur les 3, on s'est dit, c'est déjà pas
ouais,
mal.
Ouais, c'est génial. Et donc, c'est son premier album solo,
ouais, c'est ça.
ABCDE.
Ouais.
Et on va écouter, moi j'ai choisi le 4e titre de l'album, Molenbeek. Alors, bah, moi, c'est quand même assez différent de ce qu'on a écouté tout à l'heure.
Absolument.
Et un son assez brut, il me semble. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle l'avait écrit toute seule dans son salon pendant toute l'année 2024. Et elle essayait vraiment, elle ne voulait pas faire forcément quelque chose de complètement achevé. Ce qui l'intéressait, c'était plutôt la beauté de l'imperfection. Et elle voulait mettre en scène, en fait, différentes émotions. La joie, la tristesse. Et je cite, elle a dit « Je voulais faire un album avec la liberté d'un enfant découvrant un instrument pour la première fois. » Voilà. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce qui vous a plu, vous, et comment s'est fait ce choix pour...
C'est vraiment le côté pop, ouais. Mais assez brut, intimiste, ouais. Et ça prend un peu aux tripes, c'est assez doux, mais c'est beau. Et en plus, on sait que c'est une meuf cool, donc on s'est dit, ça peut être que chouette.
Autant l'inviter.
C'est ça.
Super. Et donc là, je suis passée encore à une ambiance un petit peu différente avec Good Flying Birds, donc qui est un groupe de guitare pop. Eux, ils sont originaires du Midwest états-unien. Ils se sont fait connaître par leur expérimentation vidéo de stop motion sur YouTube et sous le pseudonyme, Tallulah God. C'est ça ?
C'est ça.
C'est ça. Et donc, je vous propose d'écouter Down on Me de Good Flying Birds. My favorite color is gold. Et autre style encore. Et c'est quoi l'histoire de ce groupe ? Je crois qu'il commence à émerger dès 2023. Est-ce que Vincent, tu peux nous en dire plus ?
Ouais, c'est un peu comme on disait tout à l'heure. C'est typiquement un groupe qui a commencé à bricoler un peu dans son coin, à la maison, à s'enregistrer, à faire des vidéos totalement do it yourself. Qu'à utiliser les moyens d'aujourd'hui, les moyens d'Internet pour diffuser tout ça. Et donc totalement indé hein, pour le coup. Et puis qui a été repéré ensuite par un label qui s'est intéressé à eux et qui a finalement publié leur album. Donc c'est comme ça que nous, on a découvert tout ça. Voilà, donc c'est typiquement ce type de groupe, très sincère, très... très sincère.
Ils sont sincères, c'est pas mal.
Sincères, c'est bien. Ouais. Ils seront combien sur scène
Il me semble qu'ils sont 5.
Ils sont assez nombreux.
C'est
ça.
Ouais. Et c'est d'ailleurs leur première tournée en Europe, je pense. Ouais. Une de leurs premières dates, a priori. Ouais.
Je suis désolée pour les autres. Hein. J'ai dû faire une sélection pour le vendredi soir, en tout cas. Et il y aura aussi des très belles choses à voir le samedi soir. Donc, je rappelle un petit peu la programmation du samedi. Donc, on va avoir Billy Fuller, Bound by Endogamy, Brenda, Eraser, Paloma 004. Et puis, on a une session DJ aussi avec les petits DJ. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Qui sont en fait les membres d'Ebi, qui vont revenir le lendemain pour passer des disques entre les concerts.
Excellent. Moi j'ai choisi un extrait du groupe Eraser, un quatuor qui est composé de 4 femmes, Sonan, Pierre, Kat et Juliette, qui viennent je crois de Philadelphie, et j'ai choisi comme musique Dinner Roll. C'est parti. Alors, finalement, ce groupe, quel est, d'où viennent-elles?
C'est un groupe donc des États-Unis, je ne sais plus exactement.
De Philadelphie.
Ouais, Philadelphie. Et c'est le groupe le plus post-punk, je pense, de l'édition. Avec quatre femmes qui ont l'air vraiment super. Et elles font des tournées complètement un peu foutraques aux États-Unis. Elles jouent sous des ponts, elles font des trucs un peu partout, dans des mini-bistrots, des plus grosses scènes. Et là, elles sont très heureuses de venir. C'est assez chouette. Avec elles, on a pu échanger en direct sans passer par des tourneurs, tourneuses. Donc, c'est assez cool quand c'est assez fluide et simple comme ça. Parce que dès le début, elles ont répondu, elles étaient à 400%.
C'est vous qui les avez contactées d'abord ?
Ouais, on les avait contactées. On avait envoyé un petit message.
Pourquoi ?
Vers l'inconnu. Et puis, ça a répondu. On était trop contents. Donc, c'est chouette quand ça marche comme ça.
Et bah, c'est génial. Pour un cinquième extrait, moi j'ai choisi un duo genevois de synth-punk. Shlomo Balexert à la batterie et Cléo Tomayad, je sais pas comment on dit.
Ouais,
c'est pas mal.
Qui est aux voix à la machine. Donc j'ai vu que c'était des vétérans de la scène squat et punk de Genève. Avec des rythmiques, des rythmiques qui étaient assez asymétriques et pas mal de basses aussi, avec une voix aussi de Clio qui oscillait entre murmure et puis quelque chose de beaucoup plus tranchant. Et donc, je vous propose d'écouter Going to the Mine de Bound by Endogamy.
We're going to the mine. We go to the factory. We walk in single line. This is our destiny. We're going to the mine. We go to the factory. We walk in single line. This is our destiny.
Voilà donc. Moi, j'ai trouvé un éclectisme assez chouette dans votre programmation.
Merci.
Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, justement, de ce duo genevois ?
Bon, ce duo, c'est le côté un peu plus électronique, je pense, mais c'est toujours l'électronique à notre sauce, parce qu'on n'est pas du tout branché électro.
Ouais.
Mais on aime bien les touches d'électro dans des groupes plus rock, plus indé. En fait, vraiment, les mélanges de genres, ça nous plaît. Et là, je trouve qu'ils sont à fond là-dedans. Ça a l'air bien énervé. Et c'est chouette aussi, après un peu de folk.
Voilà, tout le monde peut s'y retrouver, finalement, dans votre programmation. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de l'affiche. Elle a été faite par Nathalie Billon. Je crois que c'est une designeuse graphique qui est basée à Brest.
C'est ça, ouais.
Comment vous l'avez connue et pourquoi avoir choisi son travail à elle ?
L'image de du petit document qu'on utilise pour programmer, on a un petit tableur avec un certain nombre de contacts comme ça, de designers dont
Démocratie.
On voit les affiches au fil des réseaux sociaux ou sur les murs. Et donc voilà, on note. Et ensuite, au moment de définir qui fera l'affiche chaque année, on délibère, on échange. Et puis voilà. Et donc Nathalie, on trouvait son travail vraiment super depuis très longtemps. Donc on l'a contactée cette année, elle a été super, super partante, elle aime beaucoup le festival, elle était déjà venue comme festivalière par le passé. Très enthousiaste, elle nous a fait plein de propositions qui nous ont quasiment toutes plu, donc ça n'a pas été facile de choisir. Mais ouais, donc on a fini avec cette affiche qui est super belle et dont il y aura des versions en édition un peu limitée à la vente pendant le festival jeudi, vendredi, samedi.
Comment fait-on alors ? Donc c'est au Jardin Moderne, plusieurs façons pour s'y rendre, vélo,
ouais, c'est bien,
c'est
bien.
C'est pas mal, il y a une vélo, cyclable qui, malgré le côté un peu...
Ouais, la cyclable maintenant est bien, avant c'était très galère, maintenant elle va vraiment jusqu'au bout, on n'est pas obligé de traverser toute la zone Indus bien compliquée, et franchement la piste est cool.
Ouais, au bord de l'eau, au bord de la Vilaine.
Mmh. On a créé un petit dock aussi avec un plan où passer en vélo.
Oui, j'ai vu ça sur le site, lespichikai.com,
c'est ça.
Donc déjà il y a toutes ces informations là, et puis il y a aussi la ligne 11 qui passe, et puis du covoiturage aussi. J'ai vu qu'on pouvait...
on a proposé ça, ça n'a pas du tout pris l'an dernier, mais allons-y, on le met au cas où.
Et sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour les voitures, donc si les gens peuvent éviter...
Le vélo,
on aime.
Le vélo, c'est très bien, il y aura de la place pour les vélos par contre.
Alors, on le rappelle, donc la cinquième édition de la Pipalapop is back. C'est au Jardin Moderne, vendredi et samedi soir prochain. Ça commence à quelle heure? Je vous ai même pas demandé.
L'ouverture des portes est à 19h et ça commence à
19h30. 19h30 jusqu'à
1h du matin.
Très bien. Et on peut y aller à plusieurs. Les gens pas gentils ne sont pas les bienvenus. Ouais. Comme il est mentionné sur
parce
le site des Pichicailles.
Pas
avec les gens pas gentils. Mais on n'est pas vraiment inquiète et inquiets. Les auditeuristes de CELAB, ce sont tous des gens gentils. Et vous retrouverez toutes les infos sur le site des Pichicailles.
Des
Pichicailles.com. Et j'imagine aussi sur le site du Jardin Moderne.
Oui, aussi, il relaye l'info.
Merci beaucoup d'être venus.
Merci, merci à vous pour
Vincent et Anouk à CELAB.
Merci.
6h avant minuit.
Ce week-end à Paris, c'était la Nuit Blanche, un festival pendant lequel sont installées des œuvres d'art et des illuminations dans la ville. Cette année, ce n'est pas son thème de l'amour qui a fait la une, mais les violences qui s'y sont déroulées. 6 personnes ont été placées en garde à vue, dont 2 pour violences sur des élus. Léonard nous explique tout dans sa chronique aux racines de l'extrême droite.
En effet, Héloïse, une trentaine d'individus du groupe d'extrême droite Civitas se sont rassemblés samedi près de l'église Saint-Laurent afin d'en bloquer l'ouverture. À l'occasion de Nuit Blanche, une installation sonore de l'artiste Marilus Nadal devait être présentée au public dans ce lieu de culte du 10e arrondissement. Parmi les personnes venues empêcher l'ouverture de l'église, 2 sont soupçonnées de violences volontaires contre la maire socialiste du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar, et le député écologiste Pouria Amirchaï. Les suspects auraient pris à partie et bousculé les 2 élus après avoir organisé une prière de rue aux abords de l'édifice. La mairie de Paris a annoncé vouloir porter plainte, tout comme les 2 élus. 4 autres membres du groupe ont également été placés en garde à vue, eux pour participation à un attroupement après sommation de se disperser.
Mais pourquoi empêcher le bon déroulement de la soirée ?
Alors Civitas, c'est un groupe intégriste catholique. Ses militants et militantes auraient en fait été appelés à perturber la soirée en raison de la directrice artistique de l'événement, qui est la DJ Barbara Butch. Cette dernière a été déjà victime d'une importante campagne de cyberharcèlement après sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Elle avait mixé aux côtés de Philippe Catherine dans un tableau que certains avaient pris pour une reproduction de la scène de Léonard da Vinci. Un tableau extravagant et queer-friendly qui avait grandement déplu à Civitas. 4 hommes avaient d'ailleurs été déjà condamnés en novembre pour des faits de harcèlement massif envers la DJ. Le groupuscule continue de diffuser des idées antisémites, racistes, grossophobes et sexistes, malgré sa dissolution par le gouvernement français à la fin de l'année 2023.
Mais explique-nous alors, qu'est-ce que c'est exactement Civitas ?
Alors Civitas, c'est un mouvement catholique traditionnaliste qui a été fondé en France en 1999 et aujourd'hui qui est aussi présent en Suisse et en Belgique. En 2016, il se transforme en parti politique. L'idéologie de Civitas, elle est contre-révolutionnaire. Le mouvement prône un retour au traditionalisme catholique et à une conception identitaire de la nation. On retrouve des influences maurrassiennes et un attachement à certaines figures et références de l'extrême droite française. On peut penser au maréchal Pétain ou à l'Algérie française par exemple. Aujourd'hui, le mouvement intègre également des courants complotistes et anti-système. D'une certaine manière, c'est un hybride entre traditionnalisme catholique, rejet des institutions républicaines et nouvelle mouvance contestataire. En 2023, le parti a été dissous par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après des paroles antisémites lors de leur université d'été en Mayenne. Le mouvement reste toujours présent, mais passe souvent sous les radars médiatiques. À prendre avec prudence, mais Civitas revendique environ 1000 adhérents et adhérentes avant sa dissolution. Aujourd'hui, le nombre semble encore plus restreint. Il est difficile de mesurer précisément son influence. On entend généralement parler de l'organisation à l'occasion de troubles ou d'actions visant le monde culturel. Civitas utilise en fait le boycott de la culture comme un tremplin pour apparaître dans les médias.
Merci Léonore de son éclairage sur la question. Peut-être à bientôt pour une nouvelle chronique. Who knows ? Je te laisse appuyer sur le bouton du répondeur, je crois qu'on a un message.
Ding dong.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
CELAB, la radio sauvage.
Bonjour, 6h avant minuit. C'est un message pour vous prévenir que dimanche 7 juin, sur le mail François Mitterrand, il y a un grand événement autour de l'eau, tous pour l'eau, l'eau pour tous, pour protéger l'eau, notre santé et notre démocratie, pour lutter contre la privatisation de l'eau. et qu'il n'y ait pas en particulier des intérêts agroalimentaires qui nous dégueulassent notre eau, des pesticides, des PFAS, du cadmium ou d'autres trucs dégueux. Donc c'est à partir de midi sur le mail François Mitterrand, et puis à partir de 14h, donc midi c'est espèce de village, information, tout ça, à partir de 14h c'est la manif qui démarre, festive et tout ça. À bientôt.
Et oui, c'était ce week-end dont on a parlé en flash, mais la mobilisation n'est pas finie et continue, donc vous pouvez vous renseigner sur internet, je pense qu'il y aura d'autres mobilisations. Merci chère auditrice, laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35, on vous écoute, on diffuse ça à la fin de l'émission. Ce soir à la technique, c'était Timour, merci à toi et à demain dans 6h avant minuit.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très bien.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h sur Syllab,
la radio sauvage.